Et bonjour à tous. Bonjour à tous ceux que je connais pas et qui sont présents parmi nous aujourd'hui. Bienvenue. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. C'est vrai, on entend souvent des personnes dire que Dieu te bénisse. Mais vraiment, on veut le dire tous ensemble, que Dieu vous bénisse. Et bénir, vraiment, ça veut dire que Dieu vous remplit de toutes choses, de bien. Ainsi, la paix de Dieu. Alors, juste avant de commencer, une annonce. Il y a quelques semaines d'ici, il y a Jean qui a demandé pour être membre de l'église de Jumé. C'est vrai, pour ceux qui connaissent pas c'est quoi membre, ça on pourrait l'expliquer. Mais en tout cas, voilà Jean, bienvenue à Jumé. Que le Seigneur te fortifie ici dans cette église. Voilà, on vient de chanter ce 292. Et il y a ce refrain qui dit « Je lève les yeux vers les hauts sommets. Tu es seul, tu es toi seul et mon Dieu, je proclamerai. Toi seul est ma force. Toi seul me restaure. Mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors. Mon secours est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. » Est-ce qu'on le croit vraiment, ces paroles de ce chant? Anthony nous a parlé ce matin, bien sûr l'accent était sur la paix, mais également sur l'amour de Dieu pour ses enfants. C'est un amour qui ne faillira jamais, mais alors là, jamais. Et comme ça a été dit dans Romains, personne, mais personne ne pourra nous séparer de cet amour. Il est bon de le savoir, cela, pour la vie de tous les jours. C'est vrai que notre foi peut varier, nos circonstances peuvent changer, mais l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, lui, ne changera jamais. Alors ce matin, je voudrais vous dire à chacun que vous êtes dans le plan de Dieu. Vous êtes dans le plan de Dieu. Dans le sport, ainsi dans la vie professionnelle, voilà que votre entraîneur vous dit... Vous êtes convoqué pour cette année avec moi. En quelque sorte, c'est son plan. Il vous prend dans son plan. Ainsi, dans le travail, des chefs ou des patrons vous disent « Tu nous conviens, tu es dans notre plan. » Mais parfois, ça arrive qu'on change d'entraîneur, on change de chef, on change de patron. Et voilà que tu es plus dans son plan. Mais avec Dieu, c'est pas comme ça. Dieu ne change pas. Alors, quelques paroles dans la parole de Dieu. Dans Proverbes au chapitre 16, au verset 9, il dit « Les cœurs de l'homme méditent sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. » C'est vrai qu'un homme, une femme, peut méditer jour après jour à l'avance ses pas. Mais c'est l'Éternel qui dirige, qui décide et qui établit. Dans le psaume 32 au verset 8, il est dit « Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai et j'aurai le regard sur toi. » Ésaïe, on connaît bien ce verset, « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voies ne sont pas mes voies, dit l'Éternel. » Oui, vous êtes dans le plan de Dieu. Dans ce plan de Dieu, il y a bien sûr le plan souverain, qui veut dire un plan qui est caché, qu'on ne voit pas, mais qu'on lui fait confiance. J'ai entendu il n'y a pas si longtemps des personnes qui vont voir des voyants, des voyances, et ils disent, c'est bon d'aller les voir, ça nous rassure. Et une parole que j'avais jamais entendue, ça nous réconforte. Le plan de Dieu pour chacun de nous doit nous rassurer et nous réconforter. C'est un plan caché, mais qui est sûr. Mais aussi, en même temps, c'est un plan de Dieu qui est moral, qui veut dire l'obéissance. Qu'est-ce qu'il y a dans la parole ? Dieu veut nous demander, nous demande à lui obéir. S'il nous dit « ne vole pas », c'est le plan de Dieu que tu ne dois pas voler. S'il te dit « ne tue pas », c'est le plan de Dieu, ne tue pas. S'il te dit « ne commets pas l'adultère », c'est le plan de Dieu, ce qui est moral. Alors, ça fait quoi de savoir que nous sommes dans le plan de Dieu ? Ça fait quoi ? Ça fait du bien. Et surtout, c'est pour notre bien. C'est pour notre bien. Le plan de Dieu est une réalité merveilleuse à laquelle les hommes et les femmes n'auraient jamais, jamais songé. Un jeune garçon qui avait 17 ans et qui a souffert de l'esclavage et de la prison. Ça a duré 13 ans. Ce garçon était droit avec Dieu, mais il n'a pas été épargné à l'abri de la souffrance. Ce garçon, vous le connaissez tous, c'est Joseph dans l'Ancien Testament. Les frères de Joseph haïssaient Joseph, tout simplement parce que le père aimait Joseph un peu plus que les autres. Mais aussi, ce Joseph faisait beaucoup de rêves. C'était un rêveur. Et voilà que les frères de Joseph complotent pour tuer Joseph. Mais son frère Ruben a persuadé les autres frères de ne pas commettre ce crime. Mais on va le jeter dans une citerne, vide. Mais avant ça, on va retirer sa belle tunique qu'il a. Et voilà qu'on le jette dans la citerne. Et un des frères, Judas, dit aux autres frères, « Pourquoi on ne le vend pas, Joseph ?» Et voilà qu'on vend Joseph à des Ismaélites. Ce sont des descendants d'Abraham par rapport à Agar. Joseph est vendu pour 20 sicles d'argent. Ça représente à peu près 225 grammes d'argent. J'ai pesé mon GSM, il fait 221 grammes. C'est rien du tout. C'est rien du tout. Et voilà que Joseph est emmené en Égypte. Et les frères ont pris la tunique pour rapporter ça au père. Mais avant de le rapporter, ils vont égorger un bouc et ils vont mettre la tunique sur ce sang. Ils vont le remplir de sang. Et ils vont porter ça au père. Et le père a commencé à pleurer, à pleurer. Il ne voulut personne, aucune personne pouvait le consoler. Je ne sais pas si vous regardez souvent les images à la télévision, à Gaza, où des femmes et des hommes sont avec leurs enfants remplis de sang. il y a des pleurs et des cris. On ne sait pas les consoler, ces personnes. Impossible. Tellement qu'ils voient la souffrance dans leurs mains, remplies de sang. Et Jacob était là, avec la tunique remplie de sang. Et voilà que Joseph arrive en Égypte, et là, dans ce marché, on le revend à un officier, Potiphar, officier du pharaon, chef des gardes. Et là, on nous dit que Joseph était une bénédiction pour Potiphar, parce que l'Éternel était avec lui. Et voilà qu'à un moment donné, il y a la femme de Potiphar, tenta Joseph. Parce que Joseph était beau de taille et beau de figure. Bien sûr, à 17 ans, peut-être un peu plus là, je pense à Kéril, Lucas, Mathieu, 17 ans, 18 ans, Maxime. Même moi, quand j'avais 17 ans, on était beaux. Et Joseph refusa de coucher avec elle. Il lui dit, je ne pêche pas contre Dieu. Et contre son maître, il ne va pas faire du mal à son maître. Alors elle le saisit avec son vêtement et lui s'enfuit. Et son vêtement, cette femme-là en main. Et elle va mentir vers son mari, lui dire, regarde son vêtement, il voulait coucher avec moi. Joseph n'a pas de chance avec ses vêtements. Deux fois qu'on ment avec sa tunique et son vêtement. Une fois, il est mort, et une fois, qui commet l'adultère. Alors, bien sûr, ce mari, il est le chef. Il le met en prison. Il est en colère avec lui. Voilà que Joseph est en prison. Ça dure avec l'esclavage 13 ans. À 30 ans, voilà que Joseph sort de cette prison parce que le pharaon a fait un rêve. Et Joseph va lui expliquer ce rêve, qui aura 7 ans d'abondance et 7 ans de famine. Et là, ce pharaon le nomme comme ministre, pas n'importe quoi, ministre de surtout. Et voilà que les 7 ans d'abondance sont passés, voilà qu'on arrive à 7 ans de famine. Après 2 ans de famine, c'est là qu'il va voir qu'il est dans le plan de Dieu. C'est dans Genèse, au chapitre 45, au verset 5, il dit à ses frères, « Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. » C'est vrai que dans le chapitre 42, pour la première fois, il voit ses frères, il reconnaît ses frères et il se souvient qu'il avait fait des rêves. Mais c'est à ce moment-là, au chapitre 45, qu'il comprend que Dieu l'avait envoyé devant pour sauver ses frères. Alors, je vous ai dit, c'est bien de savoir que nous sommes dans le plan de Dieu, mais c'est bon aussi de savoir que c'est pour notre bien. Et là, on lit dans le chapitre 50, au verset 20, il dit encore à ses frères, « Vous avez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Il l'a changé en bien. Le plan de Dieu, c'est pour notre bien. Mais est-ce qu'au départ, Joseph savait que c'était pour son bien? Je me pose la question, quand il était dans la citerne, est-ce qu'il savait que c'était pour son bien? Je crois pas. Je crois que là, il criait vers ses frères, « Qu'est-ce que vous faites? Ne me laissez pas ici. » Il y avait, bien sûr, ses cris. Quand il a été vendu par ses Ismaélites, est-ce qu'il savait que c'était pour son bien? Quand il a été vendu, encore une fois, à ce chef du Pharaon, est-ce qu'il savait que c'était pour son bien? Est-ce qu'il savait que c'était dans le plan de Dieu? Quand il était en prison, est-ce qu'il savait que c'était pour son bien? Que c'était dans le plan de Dieu? Je ne crois pas au départ. À 30 ans, il devient ministre. Ça veut dire de 17 ans à 30 ans, 13 ans. 7 ans d'abondance, 13 plus 7, 20. Plus 2 années de famine qu'il a su qu'il était dans le plan de Dieu. Il a fallu 22 années. C'est beaucoup pour savoir qu'il était dans le plan de Dieu. Il n'a jamais douté de Dieu. Mais c'est là qu'il a compris qu'il était dirigé par Dieu. Comme dans ces versets qu'on a lus au début. Il dirige tes pas, il établit tes pas. Je t'instruirai. Je te conseillerai. J'aurai le regard sur toi, Joseph. Car mes pensées, Joseph, ne sont pas tes pensées. Le plan de Dieu est une réalité qui est merveilleuse, mais qu'on ne réalise pas. Alors ce matin, je voudrais lire un verset que Anthony a lu. Mais attention, de ne pas le sortir de son contexte et surtout ne pas le dire quand quelqu'un va mal. Laissez-le, que Dieu va lui travailler et lui montrer ce verset. C'est dans Romains au chapitre 28, ce verset 8. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein, selon son plan. Que toute chose concourt à notre bien. Avant tout, il faut comprendre qu'il dit tous ceux qui aiment Dieu. C'est ça le plus important dans ce verset. Tous ceux qui aiment Dieu. C'est qui aime Dieu? Ceux qui sont baptisés, ceux qui viennent à l'église, ceux qui chantent au matin? Non. Ceux qui aiment Dieu, c'est ceux qui ont fait et qui ont mis leur confiance en Dieu. Qu'ils savent qu'ils sont pécheurs et qu'ils méritent qu'une chose, c'est l'enfer. Mais ils ont placé leur confiance en Jésus-Christ, qu'ils savent que Jésus-Christ a porté nos péchés sur la croix et qu'il est ressuscité. C'est ceux qui aiment Dieu. Ceux qui aiment Dieu, il y a aussi ces personnes qui obéissent à Dieu. Comme Joseph, voilà qu'il est tenté par cette femme et il dit « Je ne vais pas pécher contre Dieu et contre mon maître. » Joseph obéit à tous les commandements. Il obéit les deux premiers commandements qui font l'ensemble. « Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, de toute ta force. » et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voilà le plan de Dieu. Ce sont cachés, c'est divin, on ne voit pas, mais il y a ce plan moral, c'est de l'obéissance. Voilà deux choses qui sont importantes dans notre vie. Et la suite nous dit, ceux qui sont appelés selon son dessein. Mes frères et sœurs, Dieu t'a choisi. Ce n'est pas toi qui as choisi Dieu, c'est lui qui t'a choisi pour accomplir son plan. Et voilà que maintenant on peut regarder le début. Nous savons. Les non-chrétiens ne savent pas, mais nous, on doit le savoir. Nous savons qui veut dire que ta vie se trouve entre les mains de Dieu, ce Dieu tout-puissant. Le Seigneur utilisera ses enfants non seulement pour manifester sa propre gloire et son plan, mais encore pour nous faire du bien. Pour nous faire du bien. Alors, tu es en train de dire, Gino, nos souffrances, nos persécutions, nos maladies et même le deuil, c'est pour notre bien. C'est facile de dire ça le dimanche matin. Mais dans la vie de tous les jours, est-ce qu'on peut dire c'est pour notre bien? Non, c'est tellement difficile. Mais il y a une chose que Dieu nous dit. Il nous dit toute chose, la souffrance, la persécution, la maladie, le deuil, toute chose, ce qu'il permet d'arriver à ses enfants, même le pire des choses, Dieu va les transformer, tout cela à notre bien. Toute chose. Parce que nous sommes ses enfants. Alors je vous pose une question. Est-ce que les frères de Joseph étaient dans le plan de Dieu? Est-ce que les frères de Joseph étaient dans le plan de Dieu? Bien sûr que Dieu sait toutes choses à l'avance. Mais ils n'étaient pas dans le plan de Dieu. Parce que Dieu ne veut pas que tu commets un crime ou du mal à ton prochain, surtout à ton frère. Ils n'étaient pas dans le plan de Dieu. Mais Dieu peut faire concourir les péchés des autres à notre bien. Vous le croyez cela? Dieu peut faire concourir les péchés des autres à notre bien. Il y a un an d'ici, le 27 mai, je devais me faire opérer de mon pouce, les ligaments déchirés. Au mois de mars, il y a eu quelque chose au travail, je ne vais pas rentrer dans les détails. J'étais tellement fâché de ce qui s'est passé au travail. C'était un jeudi. Et le lundi, je suis en congé le lundi, Myriam a eu une bonne idée de couper la haie. Et voilà qu'on commence à couper la haie. Et je monte sur l'escabelle et je veux couper. Et voilà que je tombe. Mais je suis mal tombé. Tout mon corps est tombé sur mon pouce. Mon pouce est parti sur le côté. Myriam était toute blanche, comme la neige. Et moi, j'ai vu les étoiles. Tellement qu'il avait eu quelque chose au travail, Myriam, en voyant mon pouce, avait gonflé, il était tout bleu. Il m'a dit, il faut aller à l'hôpital. Je dis, non, ça va aller. Mais je voulais aller travailler. Parce qu'il s'est passé quelque chose. J'ai été travailler et là, on a vu mon pouce et on m'a dit, non, tu ne peux pas travailler. Il faut que tu ailles à l'hôpital. J'ai été à l'hôpital et là, on m'a mis un plâtre. Ils ont fait une radio et on dit, il n'y a rien. Ça a duré 2 mois. Puis ils ont fait une échographie et c'est là qu'on a vu que le ligament était déchiré. Au mois de mai, on m'opère. Et je voulais retourner au travail parce qu'il s'est passé quelque chose au travail. Et ça a duré 7 mois avant que je reprenne le travail. Et quand j'ai repris le travail, tout a changé. Tout a changé. Dieu peut faire concourir les péchés des autres à notre bien. Est-ce qu'on le croit, cela? Vous savez, mes frères et sœurs, le plan de Dieu était que Jésus-Christ aille sur la croix. Mais si on regarde bien comment ça a fonctionné, les Juifs complotaient entre eux pour tuer Jésus-Christ. Et voilà qui vont mêler cette affaire à des Romains. Et les Romains ne voulaient pas au début et l'ont mis sur une croix. Les péchés des autres concourent à notre bien. C'est que Jésus-Christ va quand même à la croix pour leurs péchés à eux, pour nos péchés. Voilà le plan de Dieu. Quand Joseph était dans la citerne, comment ça se fait qu'il y a des Ismaélites qui passent à ce moment-là, qui vont aller en Égypte? C'est pas pour rien. Pourquoi ils vont à ce marché où le chef de Potiphar va se promener pour chercher un esclave? Pourquoi? Pourquoi le Pharaon fait un rêve à ce moment-là? Le chemin de Dieu est un chemin pour notre bien. Et Dieu va souvent utiliser des choses qui nous dépassent, qui veut dire qu'il n'épargnera pas d'une ou plusieurs tragédies. Et parfois, elle permet qu'elle nous frappe afin de revenir vers lui. Si on regarde bien l'Ancien Testament avec le peuple de Dieu, à chaque fois, c'est pour que le peuple de Dieu revienne à lui. Le Seigneur n'a pas amené son peuple à traverser 40 années de difficultés et d'épreuves pour lui faire du mal, mais plutôt pour lui faire du bien. Regardez avec moi dans Deutéronome, au chapitre 8, et au verset 15, ce que Dieu dit. « Qui t'a fait marcher dans ce grand et affreux désert, où il y a des serpents brûlants et des scorpions ?» dans des lieux arides et sans eau. Qui a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher le plus dur? Qui t'a fait manger dans le désert la manne inconnue à tes pères, afin de t'humilier et de t'éprouver pour te faire ensuite du bien? Mes frères et sœurs, une correction de Dieu et une purification de Dieu, c'est pour notre bien. Mais souvent, la vérité, elle est souvent difficile à comprendre, souvent difficile à admettre et à l'accepter. Pourtant, c'est pour notre bien. Alors, j'arrive à la conclusion. Et bien sûr, une seule application. Joseph, il y a un exemple pour toi, mon frère, ma sœur. Des souffrances injustes que Dieu emploie pour le plus grand bien, non seulement pour lui, mais pour toute sa famille et pour son père. Son père, quand il a retrouvé son fils, c'était la plus grande joie qu'il pouvait voir son fils. Et je pensais vraiment à cette image. Peut-être que tu as perdu un de tes enfants, ou tu as perdu quelqu'un que tu aimes, un jour tu le reverras. Il y a cette promesse. Joseph n'a jamais été vendu en esclave et jeté en prison pour rien. Non, c'était pour l'occasion d'interpréter le rêve du Pharaon et d'accéder à cette position qui allait lui permettre de sauver l'Égypte, son propre peuple et sa famille. C'est là qu'il a compris cette vérité qu'il a fallu 22 années. Ce matin, je peux te dire que tu es dans le plan de Dieu. Le croyant ne fait pas une expérience qui risquerait de nuire le plan de Dieu. Le Seigneur prend tout ce qu'il permet d'arriver à ses enfants pour transformer tout cela en bien. Alors, une seule application. Toi qui vas bien aujourd'hui, que tout roule, tout va super, retiens cette histoire de Joseph. Pas les miennes, mais celle de Joseph. Retiens-toi, retiens-les. Parce que le jour mauvais peut arriver dans ta vie. Et tu puisses réaliser à ce moment-là que tu es dans le plan de Dieu. Et que Dieu est avec toi. Toi aujourd'hui qui souffres, tu connais cette souffrance. Regarde la vie de Paul, ce modèle. Il a connu toutes les souffrances. Et il dit dans Philippiens, Anthony l'a pris, mais c'est dans le verset 13, il dit « Je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout par celui qui me fortifie. » J'avais entendu un frère, il dit, quand tu passes dans un moment difficile, que tu n'as pas le temps de prier, c'est au travail ou dans la rue, est-ce que tu cries « Dieu, fortifie-moi » ? Il y a 3 semaines d'ici, notre frère Francis, ici même, le dimanche, a commencé à prier. Et je ne sais pas si vous avez fait attention à sa prière. Il a dit, « Seigneur, donne-moi de la force. » C'est ça, « Fortifie-moi. Donne-moi de la force. » Paul savait que sa force vient de Christ, le refrain qu'on a chanté. L'apôtre Paul ne veut pas dire que physiquement, il pourrait survivre sans nourriture, sans boisson, sans sommeil. Non, c'est lorsqu'il atteint sa limite, ses ressources, sa force. Alors, le Seigneur prend le relais et le fortifie. La force du Seigneur sera donnée. Le Seigneur va le soulager. Non pas en éliminant sa souffrance, mais en lui donnant la force nécessaire pour la supporter. Alors, tu es dans le plan de Dieu. Mais dans ce plan, parfois nous traversons ces difficultés. Mais le Seigneur est avec toi. Que Dieu vous bénisse.